2014 à un accord de paix entre l'Ouganda et le Soudan. Le centre promeut également la santé et lutte contre les maladies dans les régions les plus pauvres de la planète. L'éradication de la maladie du ver de Guinée a été l'un de ses principaux objectifs.
Dans l'histoire de l'humanité, une seule maladie a été éradiquée, la variole, il y a plus de 30 ans. Le ver de Guinée sera donc la deuxième maladie de l'histoire à être éradiquée de la surface de la Terre.
Le travail de Carter en faveur de l'humanité l'a conduit à Oslo, en Norvège, en 2002, où il a accepté le prix Nobel de la paix. Carter a mené une vie active jusqu'à l'âge de 90 ans, survivant à un cancer du cerveau en 2015. Mais sa santé déclinante l'a contraint à rester confiné dans sa ville natale de Plains pendant les dernières années de sa vie. Jimmy Carter est apparu pour la dernière fois en public lors des funérailles de son épouse Rosalynn en novembre 2023.
Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités, Marilyn Seyfock, la professeure de langue à Howard University, située ici même à Washington. Elle est également la fondatrice et présidente de la Women Ambassadors Foundation. Via Skype de Bruxelles, en Belgique, Amédou Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Il a également été haut fonctionnaire des Nations Unies. Et en direct de la République démocratique du Congo, Frédéric Amadou, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Madame, messieurs, merci d'être avec nous. Marilyn Seyfock, je commence par vous. Jimmy Carter a marqué l'histoire avec les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, mais cet exploit est souvent éclipsé par la crise des otages en Iran. Comment réconcilier ces deux aspects de son mandat quand vous évaluez son héritage diplomatique ?
Donc son héritage diplomatique est énorme. C'est un grand promoteur de la paix, un champion de la paix. On se souvient des accords de Camp David, mais aussi on se souvient de la remise du canal de Panama au Panama. Donc tout cela montre son aspect extrêmement, si vous voulez, humanitaire. C'était un grand... Il croyait énormément à la paix dans le monde et il croyait en l'humain lui-même. Donc Carter... On a beaucoup insisté, si vous voulez, et surtout côté républicain, sur le fait qu'il y a eu cette crise des otages en Iran, mais il restera quand même l'un des plus grands présidents des États-Unis.
Frédéric Amani, Jimmy Carter a fait des droits humains un pilier de sa politique étrangère, notamment en Amérique latine, mais certains critiques disent que cette approche a manqué de cohérence, notamment au Salvador et au Nicaragua. Était-ce un idéal trop ambitieux ou mal appliqué ?
Bien, je crois que c'est vrai, c'est un idéal, mais pas mal appliqué parce que il y a dans la vie aussi des impondérables, des situations dont on ne sait pas maîtriser. Mais je crois que on a beaucoup de respect à l'égard de Jimmy Carter qui a joué sa partition. Ouais. Je crois qu'il est un pionnier dans ces domaines ou un précurseur, bien que c'est vrai dans la vie, un précurseur, c'est une personne dont on se souvient après son départ. Il a fait un travail énorme, pas seulement en Amérique latine, même en Afrique. Ouais. Que ce soit en Ouganda, que ce soit au Libéria ou en RDC, où il a milité pour que le président Mobutu, à l'époque d'Isaïe, et même Adéma, puisse contribuer, n'est-ce pas, au multipartisme. Je crois que c'est un grand homme dont on honore aujourd'hui, et nous pensons que un grand héritage pour les Africains et pour le monde, c'est de pérenniser les actions que Jimmy Carter a menées, de sauvegarder les droits humains qui fait problème aujourd'hui. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde. On voit, n'est-ce pas, les tueries, les conflits au travers le monde. Je crois que son héritage doit être pérennisé en contribuant à la promotion de la paix et au respect des droits humains.
Amédou Ould Abdallah, vous avez eu l'honneur de rencontrer Jimmy Carter et de recevoir des lettres personnelles de sa part. Vous nous avez fait parvenir ces courriers, de même que quelques photos témoignant de ce qui peut être qualifié de relations privilégiées. Que retenez-vous de ces échanges avec lui et en quoi ces interactions reflètent-elles l'homme qu'il était tant sur le plan humain que sur celui de son engagement pour des causes mondiales ?
Merci beaucoup. Je pense que ce qui est le plus impressionnant avec le président Carter, pour bien le comprendre, il faut se rappeler la période de la guerre froide, l'extrême puissance des superpuissances, et au même moment, la modestie, la discrétion, la disponibilité du président Carter. Il représentait, à mon avis, l'Américain typique, c'est-à-dire simple, capable de travailler, il peut se fâcher, mais capable de travailler. Et Carter avait en particulier une grande empathie pour les situations difficiles, en particulier des pays comme l'Afrique. On ne peut pas, on ne doit pas oublier comment il a mis fin au ver de Guinée, un parasite qui ruinait l'Afrique saharienne, en particulier l'Afrique de l'Ouest que je connais le plus. Les efforts qu'il a fait entre, comme vous l'a dit votre reportage, c'est le premier et le dernier accord entre Israël et l'Égypte ou les pays voisins. Donc Carter était l'expression de la puissance, mais manifestée par la modestie, la disponibilité. Et c'est ça que j'ai gardé de lui. La sympathie pour notre continent, la sympathie pour les sujets intéressants, la paix, la sécurité, l'environnement. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. J'étais ambassadeur, mais je l'ai connu quand j'étais à la Banque mondiale après la crise du Burundi. Il était content qu'il n'ait pas eu de génocide au Burundi. Et il, après, comme il était pour la démocratie, il a financé une organisation qui marque jusqu'à présent l'organisation des élections. Et j'ai eu ces observateurs avec moi en Tunisie et dans beaucoup de pays africains. C'était un homme, c'était pour moi l'Américain puissant et simple, accessible, modeste. Et voilà ce que je peux dire. C'est une grande perte pour... Enfin, une grande perte, il a 100 ans. Oui. Et je veux dire, cette approche est essentielle à la réputation, à l'image de pays, mais aussi une leçon à tous les présidents, qu'ils soient du nord ou du sud, la modestie, l'accessibilité et l'empathie pour les plus pauvres.
Marilyn Sefok, la défaite du démocrate Jimmy Carter face au républicain Ronald Reagan en 1980 est souvent attribuée à des crises intérieures et internationales, notamment la crise énergétique et les otages en Iran, vous l'évoquiez tout à l'heure. Pensez-vous que Carter était victime des circonstances ou qu'il manquait de vision stratégique, brièvement, si vous pouvez ?
Je pense qu'au contraire, il avait une vision stratégique qui était une vision à long terme, qui n'a pas été comprise à cette époque-là. À cette époque-là, cette espèce d'image des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, cette prise d'otage a été très mal perçue par le peuple américain, et en son rival il voyait une sorte de John Wayne qui pouvait rendre à l'Amérique, il voyait donc en Reagan cette espèce de John Wayne qui pourrait rendre à l'Amérique cette image de force, cette image de conquête. Et donc c'est peut-être ce qui a été une si vous voulez un désavantage pour Carter. Mais il n'en demeure pas moins que Carter a été l'un des plus des présidents américains qui avait une vision la plus justement vaste et grande pour les États-Unis. Et on voit aujourd'hui comment il avait raison. Par exemple, il était contre une espèce de consommation effrénée. Et on voit aujourd'hui où cela mène du point de vue environnemental. Donc Carter, quelque part, il avait raison.
Frédéric Amani, l'éradication presque totale du ver de Guinée est l'un des grands succès du Carter Center en Afrique. Que révèle ce succès sur la manière dont la santé publique peut être abordée sur le continent, et pourquoi les gouvernements n'ont-ils pas pris plus tôt ce type d'initiative?
Je crois d'abord le succès de l'éradication de ces vers de variole, c'est par rapport à l'engagement qu'il avait. Il était un humanitaire, et je crois que le problème au niveau africain, non seulement le problème des moyens, mais il y a aussi ces problèmes de volonté, mais aussi de la promotion de l'intérêt général à certains dirigeants africains ou à certains responsables. Lorsqu'on leur confie des responsabilités, parfois ils préfèrent détourner, voler, n'est-ce pas, l'argent destiné à faire un travail pour leurs intérêts égoïstes, malheureusement. Et moi, je pense que, puisque nous parlons de l'héritage de Jimmy Carter dans ce domaine sanitaire, eh bien, les pays africains qui veulent honorer le travail qu'a abattu Jimmy Carter en Afrique en matière de santé, c'est de promouvoir, n'est-ce pas, une santé pour tous. Or, pour promouvoir une santé pour tous, il faut des moyens. Il faut aussi la volonté, l'engagement des dirigeants africains et des responsables, et surtout, n'est-ce pas, être à promouvoir ces Ubuntu. Je crois que pour Jimmy Carter, il était un véritable. Il a cherché à promouvoir cette philosophie de Ubuntu. Il était un humanitaire, et je pense que les Africains lui doivent un honneur mérité en ce sens-là.
Amadou, Jimmy Carter est souvent considéré comme un modèle pour les anciens présidents grâce à son travail avec le Carter Center. Peut-on dire que son impact post-présidence dépasse celui de son passage à la Maison-Blanche? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la place des anciens dirigeants dans la société moderne? En quelques mots, si vous pouvez.
Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, Carter était, si vous voulez, quand il a quitté le pouvoir, c'était dans des conditions difficiles après la crise en Iran, qu'il a voulu gérer différemment. Mais par compassion, comme vous le savez, il a reçu pour les soins de l'empereur ou le Shah d'Iran. Bref, donc la prise d'otage a été difficile, a été le point qui a mis fin à son mandat. Mais si j'ai bien compris votre question, l'héritage de Carter, c'est la transparence. C'est surtout ce qui m'a frappé, c'est une leçon qui est toujours valable, c'est la modestie, l'accessibilité, la compassion pour les peuples en crise. Il avait beaucoup, c'est la photo. Le monsieur opposé à moi, de l'autre côté, est un président d'Amérique latine, président d'un pays d'Amérique latine. Je ne sais pas si c'est le Salvador ou un autre pays. Donc, il s'occupait aussi de l'environnement. Ça le préoccupait beaucoup, et de la pauvreté. Et là où il a été extrêmement intéressant pour moi comme Africain, c'est l'accessibilité. Le fait qu'il soit accessible, qu'il soit transparent. C'est une leçon à toutes nos élites. Parce que c'est pas des leçons, mais c'est extrêmement important de voir quelqu'un qui care, qui se soucie des malheurs des autres, mais on oublie, même si ça ne répond pas directement à votre question. C'est le seul qui a réussi à faire un accord.
Pas de souci, on va y revenir. Jimmy Carter a été le premier président américain à reconnaître le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à œuvrer sans relâche afin de trouver une solution juste et durable dans cette région. Ce sont les mots de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Marilyn Sefocle, comment ce positionnement rare pour un président américain a-t-il façonné les relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient?
Donc, les États-Unis et le Moyen-Orient ont eu une chance sous Carter, une chance de paix, parce que les accords de Camp David, ce sont des accords qui étaient extrêmement importants et qui ont entamé déjà des discussions qui n'existaient pas avant. Avant même de parler de Moyen-Orient, je voudrais aussi parler de la personne qui l'a façonné, plus que toute autre personne. Il s'agit de Rachel Clark. Rachel Clark, c'était une Africaine-Américaine, une Noire américaine, qui habitait, elle était sharecropper, comme on le dit ici, c'est-à-dire métayer, et elle travaillait sur la plantation qu'avaient les parents de Jimmy Carter. Et cette femme africaine-américaine, de certain âge déjà, Elle emmenait souvent Jimmy Carter quand il était enfant dans des randonnées. Elle lui apprenait par exemple à pêcher, etc. Et c'est une personne, cette femme très simple, noire américaine, cette africaine-américaine, c'est elle qui a inculqué certaines valeurs au président Carter. Ouais. Et donc toutes ces valeurs d'intégrité, de simplicité, d'humanité, il les tient de Rachel Clark. Et ça, c'est très important. On ne peut pas parler de Jimmy Carter sans parler de Rachel Clark. Et tout ceci est ressorti, si vous voulez, dans les accords de Camp David, dans les accords avec tous les pays qu'il rencontrait, etc. Il y avait un peu de Rachel Clark là-dedans. Mm-hmm. Et ça, c'est très important à souligner. Et elle l'a vu prendre donc les rênes à la Maison Blanche. Et ça... On ne peut pas nier que dans
merci
les accords
de l'avoir souligné. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite du Washington Forum. Ce sera après cette courte pause.
Salut Ginny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous,
c'est vous et nous.
Restez de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 9 janvier 2025. L'ultime adieu à Jimmy Carter, dont les obsèques nationales ont été tenues ce jeudi. Le corps de l'ancien président américain est arrivé mardi au Capitole, à Washington, où une cérémonie bipartisane a eu lieu. En voici un extrait.
As we celebrate the legacy...
Alors que nous célébrons l'héritage de James Earl Carter Jr.,
the 39th president.
Le 39e président des États-Unis.
Today I join all Americans in mourning President Carter.
Aujourd'hui, je me joins à tous les Américains pour rendre hommage au président Carter et me souvenir de son exemple. Mais je me réjouis à l'idée que lui et son épouse, bien-aimée Rosalynn, soient désormais en présence de leur créateur.
The face of his father.
Nous nous réunissons dans cette salle sacrée d'autonomie gouvernementale pour honorer un homme extraordinaire, un homme qui a incarné les vertus du service et de la citoyenneté, aussi bien d'un Américain comme tout autre.
Que sa vie soit une leçon pour les générations à venir et un phare pour l'avenir. Que Dieu bénisse le président Jimmy Carter.
President Jimmy Carter.
Je vous propose maintenant deux commentaires à Facebook. Archiduc Théodore N'Djamena au Tchad. Jimmy Carter reste une légende philanthropique après sa gouvernance et par ses aides au monde entier grâce à sa fondation, le Centre Carter, qui est une référence de renommée internationale par ses luttes contre le ver de Guinée et d'autres maladies décimant les populations démunies. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RD Congo. Jimmy Carter a mené plus d'une centaine de missions d'observation des élections dans le monde. Il s'est imposé comme médiateur dans de nombreux conflits. Et voilà, sans plus tarder, retrouvons nos invités. Marilyn Sefok, professeure à Howard University, ici à Washington. De Bruxelles, la capitale belge, Amédou Ould Abdallah, président du Centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel Sahara, également ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et de la RDC, RDC, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Le temps passe très vite, malheureusement. Donc, Ahmedou Ould Abdallah, Jimmy Carter a mené plusieurs initiatives en Afrique de la lutte contre les maladies à l'observation des élections, nous l'avons entendu. Comment son engagement en faveur du continent africain peut-il inspirer les leaders actuels et les futures relations Afrique-États-Unis à l'heure où le républicain Donald Trump va effectuer son retour à la Maison-Blanche dans 11 jours, soit le 20 janvier?
Merci beaucoup. Effectivement, la vue de Carter et les actions concrètes du président Carter en Afrique ont beaucoup d'abord impressionné en Europe, qui est le continent le plus proche de nous, et naturellement en Amérique. Le président Clinton a visité l'Afrique. Tous les présidents ont, après lui, sauf Reagan pour d'autres raisons, guerre froide, âge, ainsi de suite. Je pense que le futur président Trump, en s'appuyant sur l'économie, sur la responsabilité individuelle, risque de surprendre, il risque de rendre de grands services à l'Afrique en disant aux gens, comptez sur vous-même, pas seulement l'idéologie. Et dans ce cas, il peut indirectement être un héritier de Carter. Travaillez, comptez sur vous-même et la suite viendra.
Voilà. Je passe. Oui. Frédéric Amani, au-delà de ses succès et échecs, quelles leçons concrètes les dirigeants actuels, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, peuvent-ils tirer de la vision et des actions de Jimmy Carter? Rapidement, si vous pouvez.
D'abord, je crois que Jimmy Carter a fait un seul mandat. Cela devrait servir d'exemple à d'autres dirigeants africains qui veulent soit se cramponner ou s'éterniser au pouvoir, ou quand ils échouent un seul mandat, ils doivent savoir partir. Et aussi, l'exemple de Jimmy Carter montre qu'on peut être, entre parenthèses, bien connu au travers le monde, non en assumant des responsabilités étatiques, mais en dehors des fauteuils présidentiels. Je crois qu'au travers le centre Carter, Jimmy Carter a été beaucoup connu au travers les œuvres, et cela doit servir aussi aux responsables africains qui doivent travailler, aimer leur peuple avec, n'est-ce pas, la diplomatie des droits de l'homme. Je crois que cela doit servir aux dirigeants africains et aux responsables africains d'aimer leur peuple et de travailler pour leur bien-être, pour le respect des droits humains, pour la promotion de la démocratie, afin que le développement soit au rendez-vous. Bref, l'héritage de Jimmy Carter est immense, et la bonne manière de l'honorer, c'est de respecter et de promouvoir la paix, de promouvoir la démocratie, et d'aimer le peuple et de savoir qu'il y a une vie après la présidence, comme Jimmy Carter l'a démontré.
Voilà. Donald Trump a souvent comparé défavorablement l'actuel président démocrate Joe Biden à Jimmy Carter, mettant en avant les défis économiques des années 1970. Marilyn Seyfock, que reflètent ces critiques par rapport à l'héritage de Jimmy Carter? Soulève-t-elle des points légitimes à débattre, d'après vous?
L'héritage de Jimmy Carter, c'est un très bel héritage, parce que c'est un héritage qui montre surtout la face humaine, la face humanitaire, la face positive des États-Unis. Et donc, c'est un héritage qui nous montre que il ne s'agit pas dans les rapports entre les nations de dominance, et qu'il s'agit davantage des rapports de coopération. Et ça, c'est très important. Jimmy Carter était pour la coopération entre les nations et non pas pour la dominance totale d'un pays par rapport aux autres.
Oui, ce sera le mot de la fin. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Marilyn Seyfock, Ahmedou Ould Abdallah et Frédéric Amani. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Un nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide, ici Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care, comme on dit en anglais.